Alors, l'histoire d'Abraham commence dans les livres des Genèse, chapitre 11, verset 29. Ça, c'est seulement que vous sachiez. Après, il y a le chemin qu'Abraham fait vers la terre d'Israël, terre de Canaan, tout ce qui se passe là-bas. Il y a l'alliance, il y a une alliance entre les morceaux où Dieu a promis à Abraham que ses descendants vont avoir la terre d'Israël. Ça se trouve dans les Genèse chapitre 15 et verset 7. C'est là-bas aussi qu'on va voir que Dieu a dit à Abraham que tes générations, tes descendants avant de retourner à la terre d'Israël, vont avoir un passage de souffrance, ce qui plus tard devient Égypte, et après ils vont retourner à la terre d'Israël. Hein? Après, l'histoire de Hagar, c'est le chapitre 16 des premiers versets, que Sarah n'avait pas des enfants. Il y a aussi le changement de nom, le changement de nom d'Abraham à Abraham, mais il y a aussi le changement de nom de Sarai à Sarah. D'accord? C'est de là de l'origine qui vient lorsque quelqu'un est malade ou quelqu'un qui est dans le judaïsme, on lui rajoute un nom. On rajoute un nom parce qu'on dit que le décret divin était fait sur un prénom, mais pas sur le nouveau prénom. D'accord? Il y a plusieurs choses dans le judaïsme qui peuvent et influencer sur un décret divin. Il y a le changement de nom. Il y a le don, ce qu'on appelle la tzedaka, le don pour la charité, le don pour l'autre. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on donne à l'autre qui est en besoin, on sauve la vie. Comme quoi on a sauvé la vie de l'autre, Dieu va nous sauver. Voilà, dans cette concept. Et la troisième, c'est la prière. Parce que lorsque nous prions, la prière, ce n'est pas des mots que nous lisons. La prière, c'est quelque chose qui nous influence à l'intérieur. On ne sort pas de la même façon lorsqu'on était avant prier et après prier. C'est-à-dire, c'est l'influence que la prière doit avoir sur nous. Après, dans les chapitres 18, ça, c'est après la circoncision d'Abraham. Et cette déclaration que Sarah va avoir un enfant. L'alligator d'Isaac se trouve dans les chapitres 22 de la Genèse. Et après, on va parler de la mort de Sarah, le mariage d'Isaac avec Rebecca. C'est dans les chapitres 24, toute l'histoire. Il est très long, l'histoire du mariage du mariage de Isaac. Après l'histoire d'Isaac avec Rebecca. Avec l'histoire d'Isaac, avec Rebecca, avec la naissance d'Ésaü et de Jacob, c'est dans le chapitre 25, verset 19. L'histoire des bénédictions se trouve dans les chapitres 27 de la Genèse. Ça commence là. Après Jacob qui doit quitter la terre d'Israël, ce dans le chapitre 28 et toute l'histoire chez Laban avec Rachel et Léa, mais aussi le retour d'Isaac vers le chapitre 32, verset 4. Et ça, c'est l'histoire qui est très connue. Lorsque Jacob, il va rentrer de nouveau à la terre d'Israël, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Alors, qu'est-ce qu'il attend avec Ésaü? Il va employer dix choses, mais choses, c'est pas balèbement, trois stratégies, trois tentations pour rencontrer en paix son frère. D'abord, il envoie des délégations, d'accord, des gens pour parler, pour dire voilà, je suis de retour, voir qu'est-ce qu'il veut Ésaü, qu'est-ce qu'il va faire, vers où il va aller. Il se prépare avec de cadeaux, ça veut dire il lui fait des cadeaux et dans la négociation, il prie l'Éternel pour que ça se passe bien. Et la dernière chose, il se prépare aussi pour la guerre. On voit la manière qu'il rentre, c'est une tactique qu'on apprend aujourd'hui au cours à l'école militaire, c'est la division de force. Ça veut dire qu'ils vont pas tous ensemble. Il partage la famille en plusieurs groupes, qu'il n'y aura pas, dans les cas où Ésaü va l'attaquer, il y a toujours une force qui va rester sauve. D'accord? Pour ne pas tout perdre en même temps, mais ce n'est pas le sujet. Hein. C'est pour connaître l'histoire un peu. Mais je voulais peut-être arrêter sur le mot Israël, parce que Jacob, on sait qu'on appelle aussi Israël. Les 12 tribus, les 12 enfants de Rachel et de Léa, mais pas Rachel et Léa, il y avait aussi les 2 servantes, celle de Rachel et celle de Léa. Ça veut dire qu'ils avaient 4 femmes, il avait 4 femmes, et Jacob. Oui. Et c'est de ces 4 femmes qu'il a tous les enfants, et c'est toutes ces tribus. Et que toutes ces tribus qu'on appelle les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Si vous voulez que je cite leur nom. Zilpa, c'était la femme qui accompagnait Léa, l'aînée. Et la deuxième, il s'appelle Bilha, celle de Rachel. Alors Zilpa et Bilha, tous les deux donnaient aussi des enfants à Jacob. Alors les principes de mon Israël. Regardez dans les chapitres 32 de la Genèse, chapitre 32, verset et 23. Ça veut dire le Pentateuque nous raconte l'histoire comme quoi Jacob devait retourner, parce qu'il a fait passer la rivière à toute la famille, il devait retourner et rester tout seul. Et là, il y avait cette nuit-là qu'il restait tout seul, il y avait une bataille. Le bataille avec avec un ange, il va terre avec Ishimon. Il s'est battu avec un homme, c'est écrit Ish. Ish, ça veut dire un homme, jusqu'à le lever, jusqu'au l'aube, le lever du soleil. Et lorsque cet homme, qu'on ne sait pas qui c'est, mais après l'exégèse, les commentateurs, c'était l'ange d'Ésaü, il y avait le bataille avant qu'il rentre. Et cet ange d'Ésaü, il veut partir, mais Jacob, il ne lui laisse pas. Jacob, il ne le laisse pas jusqu'à qu'il le bénisse. Jacob demandait, tu le bénis. Ça veut dire bénir, reconnaître quelque chose. Et là, l'ange, il dit, Vayomer Elav Mashimcha, il dit, quel est votre nom? Quel est votre prénom? Vayomer Yaakov, il dit, je m'appelle Jacob. Et là, l'ange, il dit, Vayomer Lo Yaakov, Yamer Otshemecha, on va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Ki sarita im Elohim v'imanashim v'atochal, car tu étais avec Dieu, avec des hommes, et tu as Vatoukhal, et tu pouvais, ça veut dire dans l'essence que tu as réussi, tu as gagné, pas dans le sens de gagner une guerre ou vaincre une guerre. Vous avez la droiture, vous avez le droit et la droiture de ce que tu es. Parce que Israël, c'est Yud Shin Resh chez Achar, elle, ça veut dire le droit avec éternel. Et toujours, toujours en. Et là, vous savez, il y a l'histoire, vous connaissez le nerf sciatique, que nous ne mangeons pas, le nerf sciatique de la bête dans la cacheroute, où il y a le nerf sciatique, on ne peut pas manger cet morceau ou enlever. Cacheroute, ça veut dire la nourriture qu'on peut manger. Il est valable. Mais on va parler de ça ici. On est là pour parler de ce sujet aussi. Mais c'est bien de commencer dès le début. Ça veut dire, là, Yaakov, il était touché, sa hanche a été touchée. Et les nerfs sciatiques de Jacob a été touché. Depuis, nous ne mangeons pas les nerfs sciatiques comme une symbole. Mais Israël, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Comment tu t'appelles? On ne t'appellera plus de cette nom. Et là, il paraît qu'il y a Yaakov, il y a deux facultés, je veux dire, il y a deux facultés dans la vie juive. Celle de profane et celle de sacré. Ça veut dire qu'Ésaü et Jacob étaient les deux héritiers d'Isaac. Ésaü présenter le champ, ça veut dire le travail extérieur, et Jacob présentait la spiritualité, c'est celui qui en peut parler, voilà, de tout ce qui est l'éternel, bénédiction, tout cela. Et Jacob, le moment qu'il est entré, il a pris la bénédiction d'Isaac, il a pris aussi le domaine de matériel. Lorsqu'on regarde la bénédiction, il y a aussi le miel de la terre et tout ça. Il y a aussi le domaine du champ. À l'origine, Ésaü et Jacob devaient résider, d'être complices, résider ensemble. Ça veut dire le travail d'extérieur qu'on apporte aussi à l'intérieur vers la spiritualité. Oui. Par exemple, à l'époque du temple, il y avait des gens qui travaillaient dans les champs, mais ils ont importé des dîmes dans les temples. Les dîmes pour les pauvres, il y avait les dîmes pour les prêtres, il y avait une portion pour. Voilà, il y avait les prémices, les premières fruits qu'on a montées à Jérusalem. Il y a ici, on conjugue entre la vie profane et quotidienne et. Le sacré. Ça veut dire, il n'y a pas seulement ou sacré ou profane, les deux doivent marcher ensemble. Et Jacob, les moments qu'il a pris la bénédiction d'Ésaü, Ésaü, c'est celui qui présente aussi les profanes. Jacob, on a dit que jusqu'à maintenant, c'était l'homme qui a étudié, l'homme qui était sur la tente. Mais il n'avait pas encore le droit il n'a pas acquis, il n'a pas acquis le domaine du profane. Qu'est-ce qui s'est passé le moment qu'il part de la terre d'Israël? Il part vers Haran. Et qu'est-ce qu'il était pendant 21 ans chez Laban? Il était quoi? Il était berger. Il a travaillé dans les champs. Il a travaillé avec des bétails. Ça veut dire qu'il a appris à travailler à l'extérieur. Ça veut dire que ce moment de retour, lorsqu'il y avait une bataille, et à la fin de cette bataille, on lui dit, d'accord, je suis d'accord, je reconnais votre droit, votre nom ne sera plus Yaakov. Ça veut dire Yaakov, Akeva en hébreu, c'est la ruserie, ça veut dire prendre une chose qui n'est pas par droit. Yaakov aussi, c'est éviter quelque chose. On n'appelle plus Yaakov, on appelle Israël. Israël, c'est le nom qui conjugue d'un côté la spiritualité, mais l'autre côté, la vie profane. Et de là, toute la vie juive est construite. Ça veut dire, ça va conjuguer entre la spiritualité et profane. Ça veut dire, on ne pense pas que si on veut une spiritualité, il faut inclure la vie quotidienne. Et c'est ça qui est Israël. C'est ça qui définit le mot Israël. Et là, vous connaissez le reste peut-être de l'histoire, Jacob, les enfants, et l'histoire de Joseph. Le fils cadet de Jacob n'a pas les fils de Rachel. Rachel, elle avait combien d'enfants? Deux. Elle avait Joseph et Benjamin. Les frères n'apprécient pas Joseph pour ses rêves. Oui, il avait un rêve d'un homme qui domine. Oui, il rêvait comment ses frères, son père, sa mère se prosternent devant lui. C'est quelque chose d'inimaginable. Il délivre à son père ce qui se passe avec les frères. Mais Joseph, ils ont pensé le. Joseph, qui était chez son père, le fils cadet, était, ça c'est pour, hein, c'est plus fort. Et Joseph a été demandé par son père d'aller voir les nouvelles de ses frères. Ses frères ne l'aiment pas du tout. Ne l'aiment pas du tout. Il marche pour chercher ses frères. Il ne les trouve pas. Il ne trouve pas, il arrive à un endroit et il rencontre quelqu'un, Ish. Encore le mot Ish. Ish, comme chez Jacob, c'est écrit Ish. Ish, c'est un ange. Et cet ange-là, il dit, ils ne sont pas là. Il dit, je cherche mes frères. Vous allez voir, le grand rabbin de France aime beaucoup ce terme. Je cherche mes frères. Et Techaï Anochi Mevakesh. Il cherche ses frères, Joseph. On dit, non, mes frères, non, les frères, ils ne sont pas là. Ils sont allés dans un autre champ qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Dothaina. Je vais vous donner tout de suite les références. Ça commence dans les chapitres 37, verset 12, cette histoire. D'accord? 37, verset 12. Et...
Un aspect purement pratique.
Oui.
Chapitre 37, verset 12. Quel que soit
La Bible.
l'ouvrage, que la Bible, qu'elle
Oui,
soit
c'est la même
chrétienne,
chose.
juive, c'est les mêmes repères
Ah
au
oui,
chapitre,
bien sûr.
d'accord. Voilà, c'est
C'est
juste.
le même repère.
D'accord.
Et alors, il va chercher ses frères, il ne trouve pas, il y a quelqu'un qui l'envoie pour visiter ses frères. Et là, les frères le voient de loin, il dit, voilà, il est venu encore nous faire de mal, cette frère. Et il pense les tuer. On voit, il y a une partie qui pense les tuer. Après, il y avait Judas. Il dit, c'est impossible. C'est notre frère. On va le vendre. Il y avait un caravane de Bédouins et de gens qui passaient. Il a dit, on va vendre les frères. Comme ça, c'est pas nous. Ils ont pris sa tenue, qui le père a offert, cette tenue. Il les trempe de sang et il dit au père, il y avait une bête féroce qui lui a dévoré. Et là, on commence notre histoire. Mais je voulais vous dire quelque chose. On voit que Yosef, il part. Yosef, il part. Il pouvait retourner. Il dit, je ne trouve pas, je retourne à la maison. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne retourne pas à la maison. Il rencontre quelqu'un qui dirige un chemin. Ça veut dire, c'est tous les concepts de la vie qu'on va, on sait, de fois on a un programme, on va quelque part, mais on ne sait pas toujours où on va arriver, ou vers où on va aller. Il y a un blague juif, une blague comme ça, d'un guide spirituel, un rave, en Ashkenaz on dit un Rebbe, en Pologne, dans les Shtetl, ça veut dire une villa juive en Pologne, des débuts de 20e siècle, qui va vendredi vers la synagogue. Et un policier arrête le rabbin vendredi soir et dit vers où vous y allez? Et ce guide spirituel, il dit, je ne sais pas où je vais. Il dit, mais vous rigolez, vers où vous y allez? Il dit, je ne sais pas où j'y vais. Et il arrête, il amène au poste de police. Et le commissaire, il demande le rabbin, est-ce que vous moquez de mes policiers? Vous ne dites pas que vous savez où vous y allez. Il a dit, vous savez, quand je me suis levé ce matin, je ne savais pas que je vais terminer ma journée à la poste de police. Ça veut dire, je sais où je suis, je ne sais pas où j'irai. L'affaire Dreyfus, vous connaissez l'affaire du colonel Dreyfus. Il y avait un officier à l'armée française qui s'appelle Esterhazy. Esterhazy avait une femme qui était très malade. Il n'avait pas l'argent pour acheter des remèdes à son épouse. Il n'avait pas d'argent. Il décide de livrer des documents classés haute sécurité d'État aux Allemands. On arrête colonel Dreyfus. L'affaire Dreyfus, montée d'antisémitisme. Les Juifs, après l'émancipation, ça veut dire l'intégrité du Juif autant que citoyen. Et les Juifs qui sont là, ils essayent de s'intégrer, d'être plus français que les Français. Je peux vous rassurer ça. Dans les culturellement, dans tous les domaines possibles, d'un coup, affaire Dreyfus crée cette tension. Et là arrive un homme qui s'appelle Herzl. Herzl, on nous dit en hébreu, Herzl était un journaliste tchèque qui vient pour écrire pour ce qui se passe dans l'affaire Dreyfus. Et là, il comprend que quoi qu'on fasse, quoi que les Juifs vont faire pour s'intégrer, pour respecter, et c'est des choses qui toujours est passé dans l'histoire juive, ça veut dire dans chaque pays qu'on est arrivé, si c'est en Espagne ou ailleurs. Ils se sont intégrés parce que la doctrine juive, c'est savoir intégrer et respecter les lois d'État où ils sont. Ils sont jamais révoltés contre le gouvernement où ils étaient dans l'exil, à part la terre d'Israël. Ça veut dire contre les Romains parce qu'ils sentaient que c'est leur terre. Mais lorsqu'ils sont en diaspora, depuis les prophètes Jérémie, je peux vous donner aussi, Jérémie dit, vous allez en exil après la destruction du premier temple, vous allez respecter l'endroit où vous êtes. Vivez en paix avec le gouvernement parce que c'est le seul chemin pour que vous vivez bien et où vous êtes. Et depuis, c'est la doctrine talmudique, c'est la doctrine du judaïsme. Alors, Herzl, il est là, et là, il naît l'idée d'un État juif. Tout le sionisme, c'est les fins. C'est en 1887-90, toute cette montée de sionisme qui commence, c'est la fin de ce siècle. Et pourquoi je vous dis, je vous ai parlé de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, il ne sait pas où il y va. Ça veut dire c'est ça. Il sait pas, on ne sait pas. L'histoire d'Herzl commence par la maladie de la femme d'Esterhazy. Ça veut dire que ça commence par nulle part. C'est où on ne pense pas. Et regarde comment l'histoire est. C'est l'inconnu qui nous ramène à quelque chose qui fait l'histoire. Qui fait l'histoire. C'est ça qui s'est passé. Joseph, il ne sait pas où il va. Il cherche ses frères. Il cherche ses frères. Et là, il arrive où il habite. Il était en Égypte. Vendu, il était au début, il était esclave. Et on voit son intelligence. Il devient un gouverneur chez un ministre qui s'appelle Potiphar. La femme de Potiphar le séduit. Le séduit. Alors, elle l'accuse comme quoi il voulait la violer. Il rentre dans les prisons encore quelques années. Là-bas, le ministre, voilà, tous les hasards, le ministre des pharaons qui était mis en prison, il leur donne une solution de leur rêve et il sort, il devient un conseiller des pharaons. Les frères qui arrivent en Égypte parce qu'il y avait la famine en Israël, il a pas apparu d'un coup. Il ne dit pas à ses frères, je suis Joseph, votre frère, qu'est-ce que vous m'avez fait? Il y a toutes les procédures jusqu'à qu'il se dévoile à ses frères, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, comment il a fait ça. En demandant Benjamin. Benjamin, c'est son frère, le petit. Il dit, j'aimerais avoir votre petit frère. On voit comment tout le monde protège ses petits frères en voyant que les frères ne vont plus faire ce qu'ils ont fait avec lui. La famille se retrouve ensemble, descend en Égypte. Et là, l'histoire de l'exil en Égypte, Pharaon, l'esclavage, 210 ans. L'esclavage, c'était 210 ans, bien que Dieu il a dit 400 ans. Il y avait une raccourci. Oui, ça dépend depuis quand on compte. On compte. Voilà. Voilà. Non, mais il y a ceux qui disent que l'histoire commence. On compte les années depuis Israël, mais ça, c'est les détails. L'Égypte, avec l'esclavage et tout ce qui ça contient à l'intérieur, la liberté d'un peuple. La liberté d'un peuple qui commence d'abord par leurs jeunes, leurs enfants, parce qu'il y a un moment dans les septièmes plaies qui Pharaon il veut libérer Moshe avec les hommes, mais pas avec les enfants. Un peuple qui n'a pas des enfants et des jeunes, c'est un peuple orphelin. Ça veut dire si on n'a pas cette jeunesse, on n'a pas d'avenir. Moshe insiste. Tous les buts des plaies, c'est que Pharaon sache qu'il y a des raisons de toutes raisons. C'est pas lui qui commence. C'est pas à partir de lui qui commence le monde. Il y a au-delà de ce qui a créé ce monde. Les calendriers juifs commencent maintenant. Le calendrier juif commence pas à la Genèse, à la création du monde. Le calendrier juif commence à la sortie d'Égypte. Les sacrifices pascal, c'est aussi une partie des libertés. Qu'est-ce qui s'est passé avec les sacrifices pascal? Vous connaissez un petit peu l'historique. Ça veut dire que Dieu a dit à Moshe, voilà, il y aura les dixièmes plaies. Dixième plaie, c'est la mort des premiers-nés. Dans ce concept de la mort de premier-né, je vous demande chacun les dixièmes du mois de Nissan, les mois de Pessah qu'on appelle Nissan en hébreu. Les dixièmes jours de premier mois, c'est devenu les premiers mois. Les premiers mois hébraïques, c'est les mois du Pessah, de la fête de Pessah. On a les nouvel an et les premiers mois de l'année. C'est pas la même date. Oui. Le nouvel an, c'est vers le mois de septembre, ce qu'on appelle Tishrei. Et les premiers mois de l'année, c'est les Pâques juifs. Et Dieu a dit à Moshe deux informations. Un, à partir de ce mois-ci-là, de la sortie d'Égypte, c'est les premiers mois de l'année, avec tout ce qui contient le calendrier. Peut-être tout de suite, je vais parler de ça. Et il lui donne l'ordre des sacrifices pascal, que chacun va prendre, chaque famille, par rapport au nombre de familles, vont prendre et l'agneau, c'était un animal, par rapport aux portions de nombre de familles, vous allez immoler, et le sang, vous allez mettre sur les linteaux de votre maison, et vous allez manger et griller cette viande jusqu'à minuit, sacrifice pascal. En famille, vous allez manger en famille, etc. Les sangs sur les linteaux, ce n'est pas dans l'essence des Harry Potter. Hein. Ça veut dire de dire. C'est parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, je vais passer sur le maison, et lorsqu'il y aura cette signe de sang sur les linteaux, je vais passer au-dessous. Ça veut dire, je ne vais pas frapper les premiers-nés dans cette maison. C'est-à-dire, ce n'est pas le sang qui fait le sang sur le linteau ou cette image. C'est la première fois, les choses qui se passent, que c'est Dieu qui ordonne Moshe, et Moshe qui donne un commandement au peuple d'Israël. C'est la première fois que le peuple entend ce que Dieu dit et pas ce que Pharaon dit. Ça veut dire, c'est ça, c'est un début de la liberté. Ça veut dire, mettez le sang sur le linteau, c'est un commandement, c'est un mitzvah, on fait quelque chose par liberté et pas par esclavage. D'accord? La mezouza, vous connaissez la mezouza? La mezouza, c'est un petit boîtier qui, à l'intérieur, il y a un parchemin qui est posé des côtés droits de chaque porte lorsque vous rentrez chez une famille juive, hébreu, tout ça. Il y a une petite boîtier à l'intérieur. Il y a un parchemin. D'accord? Un parchemin avec les principes importants de notre religieux, qui est écrit par un scribe. On met pas la mezouza, cette boîtier, on met pas pour garder la maison. C'est pas quelque chose qu'on croit que ça va nous garder. C'est pas superstitieux, c'est ça que je veux dire. C'est une mitzvah, c'est un commandement. C'est comme la même chose comme les sangs. C'est Dieu, c'est cette liberté qui commence. On écoute la voix et on écoute les commandements, on met ça sur la porte. Et alors oui, voilà, je vous ai des calendriers. Là, Dieu a donné à Moshe les calendriers juifs. Ça veut dire, à partir de maintenant, c'est vous qui vont instituer votre calendrier, votre temps. Évidemment, le temps, c'est la liberté. Un esclave n'a pas son temps. Oui, il ne décide pas qu'est-ce qu'il fait tel jour et tel jour. Tous les principes de la liberté, c'est que c'est l'homme qui est maître du temps et ce n'est pas le temps qui est maître de l'homme. C'est-à-dire, on peut être esclave de notre temps, nous pouvons être les maîtres du temps. L'homme est censé être le maître de son temps et pas le temps le maître de l'homme. Les Pasim, c'est le même principe. Vous savez qu'on mange les Pasim à Pessah. C'est une des signes. C'est quoi cette Pasim? Le peuple d'Israël n'avait pas du temps à cuire leur pain le moment que les Égyptiens empêchaient les peuples à sortir d'Égypte. Ça veut dire, le Pasim, c'est le symbole du temps. On n'avait pas de temps, et le temps, c'est le symbole de la liberté. C'est pour ça qu'on mangeait les Pasim. Mais les Pasim aussi, c'est le symbole de la pauvreté, de l'esclavage. Un esclave n'a pas un temps. Ça veut dire que c'est deux symboles à la fois, c'est de l'esclavage et c'est de la liberté. C'est pour cela qu'on mange Pasim en deux temps, dans cet dîner de Pâques. Au début, pour le symbole de l'esclavage, au deuxième temps, le temps qui est aussi le symbole de la liberté. Alors, c'est à vous, le peuple d'Israël, d'instituer votre calendrier. Depuis Moshe, après le Talmud, depuis Moshe, nous savons qu'il y a, ça veut dire depuis ce temps ancien en Égypte, plus que 3 500 ans, Moshe, il sait le cycle. Dites-moi. Ah, 1 h 30? Il faut que je termine?
De conclure un peu.
Dites-moi quand est-ce qu'il faut terminer?
À 17 h, normalement, on aura.
Oui, on va terminer à 17 ans. Alors, mais on va sortir avec une connaissance parfaite du judaïsme. Hein? Oui, on va faire ça. Et j'ai construit les fondations pour qu'on puisse. C'est vrai que c'est les parties les plus lourdes, c'est les débuts. Alors, j'ai parlé des calendriers juifs et des temps. Et Moshe, il sait déjà les cycles de la lune, d'accord? Parce que c'est là où vous allez évidemment parler entre la lune et le soleil. Il connaît les cycles de la lune, que la lune tourne autour de la Terre, ou c'est la Terre autour de la lune. Et les cycles de la lune, c'est 29 jours, 12 heures, virgule, 3, 5, 6, 7. C'est écrit le virgule après les points. Je ne me rappelle pas exactement, écrit 5, 6 chiffres après les virgules. Seulement, ce n'est pas pour dire, oui, voilà, les Juifs sont là, mais cette chiffre, il y a une dizaine d'années, avec les technologies de la technologie d'aujourd'hui, a trouvé le même chiffre qui est écrit depuis 3500 ans. Hein. Les mêmes chiffres exacts de cycle de la Lune. Et là, ça veut dire qu'on sait que le premier jour de mois, les premiers jours de mois, sera ou après 29 jours ou après 30 jours. La même chose qu'on sait qu'il y a une différence entre l'année solaire et l'année lunaire, oui, il y a une différence de 11 jours, 365 jours et 354 jours lunaires, qui donne un cycle dans les 19 ans, un cycle de 3e année, 6e année, auquel nous avons une année bisextile, embolismique, ça veut dire qu'il y a 13 mois et pas 12 mois. La référence des calendriers juifs, c'est que le Pâques tombe en printemps. Le Pâques doit tomber toujours en printemps. Et il y a aussi les liens avec la terre, parce qu'il y a une offrande à l'époque de temple qui s'appelle l'offrande du Homer, ça veut dire l'offrande d'orge. Les premières cultures qui poussent dans la terre en printemps, c'est l'orge. Et là, il y a les liens entre le soleil, la lune et l'agriculture. Ça veut dire que le calendrier juif prend ces trois paramètres. L'agriculture, la saison d'agriculture, la lune et le soleil. Et ici, on commence le calendrier juif à la sortie d'Égypte parce que c'est là que le peuple d'Israël commence. Le peuple d'Israël ne commence pas avec Abraham. Abraham est un patriarche. Est une fondation, est un enseignement des idées des monothéistes, de la bonté, c'est lui qui ouvre sa tente. Isaac, c'est l'homme de la rigueur, c'est l'homme qui a été là pour la ligature. Et Jacob, c'est celui qui fait la balance entre la bonté et la rigueur, c'est les trois fondations. N'oublions pas que Sarah, c'est une matriarche, Rebecca, Rachel et Léa. Ces patriarches et matriarches donnaient des socles, c'est les bases des religions monothéistes, mais le peuple d'Israël commence lors de l'esclavage en Égypte et à la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle toujours dans il écrit dans la Torah souvent, rappelle-toi que vous étiez étranger en Égypte, respectez les étrangers, car toi tu étais étranger, tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'être un étranger. Et ça c'est un principe important du judaïsme, c'est d'ici qu'on enseigne au monde que l'esclavage est complètement quelque chose d'illégal, les droits de l'homme. Tout commence ici, à la sortie d'Égypte, et le peuple est né. Mais c'était une première délivrance. C'était la délivrance du corps. Ça veut dire, nous ne sommes plus esclaves. On n'est pas soumis au temps, le temps qu'on nous impose. Mais il n'y a pas encore le sens de la liberté. Un homme est libre, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa liberté ? qu'est-ce qu'il fait avec son temps? Et 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui se passe? Le don de la Torah. Ce que les chrétiens appellent, après Pâques, c'est
l'ascension,
le Pentecôte, voilà. Et nous, on appelle Shavuot. Shavuot, ça veut dire semaine. Cette semaine après Pâques, nous fêtons le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est l'essence de la liberté. Donner un sens à cette liberté qui a été donnée quelques semaines avant. La marche que nous faisons, la préparation vers le don de la Torah. La Torah, ce qu'on appelle la Torah, cette loi, la Torah, ça veut dire un enseignement. Un enseignement du chemin de la vie. Recommandation, comment on marche dans la vie. Entre autres, ce que vous allez trouver énormément de commandements, ce que vous connaissez et on cite tous comme « Aime ton prochain comme toi-même, car je suis éternel votre Dieu ». Les 10 commandements qu'on connaît tous entre les respects des parents, mais rappelle-toi qu'est éternel Dieu, est Dieu unique, et c'est écrit « Je suis éternel votre Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ça veut dire que il n'est pas écrit dans les 10 commandements « Je suis éternel votre Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ça veut dire « Vous avez un autre engagement vis-à-vis à moi depuis la sortie d'Égypte, l'interdiction de l'idolâtrie ». Et aussi, ne pas tuer, évidemment, ne pas voler, ne pas convoiter, ni l'argent, ni la femme de votre prochain. Les 10 commandements est rappelé dans la Torah 2 fois. Une fois dans l'Exode et une fois dans les Deutéronomes. Les Deutéronomes, parce que c'est la conclusion de Moïse sur le chemin depuis la sortie d'Égypte. C'est les testaments de Moïse, alors il rappelle évidemment les Deutéronomes. Et on peut et les 10 commandements, et évidemment on peut trouver les 10 commandements dans le Exode. Et certaines lois qui sont principaux que vous posez des questions, évidemment. C'est de la cacheroute, tu m'as demandé, c'est quoi la cacheroute? Alors, la cacheroute, c'est pas un régime pour les bonnes santé. D'accord? On ne peut pas dire que manger cachère est mieux que ne pas manger cachère. Ça veut dire qu'il ne faut pas expliquer ça dans ce sens-là. Parce que celle-ci n'est pas écrite. C'est purement une explication spirituelle. Il est écrit dans les Lévitiques, le 3e livre de la Torah. Soyez saints car je suis saint, votre éternel Dieu. Ça veut dire qu'il s'agit d'un domaine de la sainteté, une sainteté en mangeant. Je vais m'expliquer. Je vous ai dit que la religion juive, c'est quelque chose qui est conjugué entre la spiritualité et la matérialité, la vie quotidienne et la vie spirituelle. Ça veut dire qu'il y avait ici un concept d'amener la nourriture qui est considérée quelque chose de matériel, qui nous fait vivre le corps, et donner aussi un aspect spirituel. L'aspect spirituel de la nutrition, c'est la cacheroute. Pour le monde juif, après, c'est c'est le libre-arbitre. Quoi qu'il soit, le monde juif, le judaïsme, n'oblige pas toutes les nations de manger cachère. Cette obligation a été faite pour les juifs, qui se sont engagés au Mont Sinaï de respecter cette alliance de la Torah. D'accord? Ça veut dire l'idée de manger cachère, c'est la spiritualité de la nutrition. De donner un aspect sain à ce que nous mangeons. C'est la même chose, Shabbat. Shabbat, le jour des samedis. Samedi était un jour qui a été identifié depuis la création du monde. Parce que le samedi, le jour de Shabbat, Dieu a arrêté, a cessé la création. La création était arrêtée. C'est le jour, C'est la spiritualité de la semaine. Ça veut dire que 6 jours vous travaillez et le 7e jour vous arrêtez. C'est un concept que toutes les religions monothéistes ont pris, si c'est vendredi ou si c'est dimanche. Mais on a vu la nécessité psychologique et de l'homme d'arrêter un jour, de donner un autre aspect au jour de la semaine, au jour que nous travaillons, au jour que nous sommes branchés, on est branchés à tout ce qui se passe, et savoir arrêter. Et se ressourcer. C'est un jour quand on se ressource. Chaque religion dans le sens. Et là, c'est aussi, on conjugue le jour ordinaire, les profanes, avec une spiritualité, un jour qui est spirituel. La même chose, nous avons les lois que peut-être vous avez entendues de la pureté familiale. Cela veut dire quoi? Dans la vie juive, on voit l'obligation, on voit le sens humain de vivre avec une femme, de se marier. La religion juive n'exclut pas les relations conjugales, les relations intimes. Évidemment, celle-ci doit être en mariant avec une femme. La femme est la moitié de l'homme. C'est écrit dans les livres de la Genèse, dans les Bereshit. L'homme, on appelle l'homme Adam, le moment qu'il y a homme et une femme ensemble. Face à face, ça veut dire pas que c'est pas le deux qui pense de la même façon. Ils sont face à face, ils pensent très différemment et ils vont créer une unicité. Mais les choses que je voudrais vous parler, c'est dans cette vie juive, d'accord, une vie juive, dans cette vie juive, où l'homme et la femme vivent ensemble, où la nature de l'homme est un homme et pas un ange, mais il a une partie spirituelle et partie de chair et de sang, et partir de humain. Et l'homme a besoin d'une relation avec son épouse, mais celle-ci, il a aussi un aspect spirituel. Quel est l'aspect spirituel? Que le moment que la femme est là, elle a ses règles, l'homme et la femme se séparent et ils n'ont pas une relation conjugale. Quand je dis se séparent, ils habitent dans la même maison, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, ils ont toute leur vie ensemble avec les enfants et tout ce qui contient, mais il n'y a pas de relation intime pendant le temps et les temps de règles plus 7 jours. Ça veut dire la règle de la femme, les règles de la femme durent 5 jours en moyenne, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 7. Et après, qu'il y a les règles qui est arrêtée, il y a 7 jours que le femme et l'homme comptent ensemble. Et là, il y a les bas rituels. Les bas rituels, c'est de l'eau qui vient de la nature, des pluies, évidemment, avec toutes les conditions sanitaires qui existaient aujourd'hui. Et on rentre dans ces bains, dans le sens des renaissances, parce que c'est comme un utérus, comme un bébé qui sort de son utérus, et de l'eau. Il y a une renaissance et une renaissance, une fraîcheur pour les couples à vivre leur vie intime. Les gens qui peuvent faire lorsqu'ils veulent et comme ils veulent, il n'y a pas de sens, il y a une certaine habitude qui est créée. Là, c'est pour le temps de l'homme et de la femme et pour la fraîcheur de leur vie intime. Seulement, je ne sais pas si ça, c'est pas lié, mais je vous dis comme ça, je ne sais pas si vous le savez, il y avait une recherche sur les cancers de l'utérus, auxquels ils ont trouvé que les femmes juives et qui sont traditionnelles ont un pourcentage minime de cancers de l'utérus. Tout ça, c'est écrit dans un revue médicale, qu'ils ont cherché pourquoi, et ils ont trouvé que dans cette période-là de règles de la femme. Je ne veux pas rentrer maintenant dans la médecine, qu'est-ce qui se passe dans les utérus, le renouvellement au fait des utérus, c'est le moment qu'il n'y avait pas une grossesse, il y a toute une une reconstruction de l'utérus à l'intérieur, ce qui tombe et ce qui va être reconstruit. Ils ont trouvé que dans cette période-là, l'immunisation des virus qui la femme a naturellement n'est pas là. Ça veut dire l'immunisation naturelle ne sont pas dans les liquides qui est là. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, au plan hygiénique, ils ont trouvé que c'est bien, pas seulement au plan religieux. Ça nous fait plaisir d'entendre ça, parce que nous on fait ça, parce qu'on croit, mais on comprend que Dieu a créé vraiment le monde, il a donné des bonnes recommandations de vivre ensemble. Quelle question encore et on peut avoir? Attends, je vais avancer très vite. On a dit les dons de la Torah après la marche des peuples d'Israël vers la terre d'Israël, Moïse qui en fait Moïse qui quitte ce monde, et Josué qui continue à diriger les peuples d'Israël vers la terre d'Israël. Et après toute la Bible que vous pouvez voir l'époque des juges. Après l'époque des juges, le prophète Samuel, il y a les rois Shaoul, les premiers rois d'Israël, les rois David, le roi Salomon, construction des temples, construction de Jérusalem, les séchismes, oui, la déchirure à l'intérieur des peuples d'Israël entre les royaumes des Judas et les royaumes d'Israël. Le roi d'Assyrie qui fait exiler les 10 tribus d'Israël que jusqu'à aujourd'hui on appelle les tribus perdues qu'on cherche. Les tribus de Juda et Benjamin qui restent, Lévi et Cohen, mais de Juda qui restent essentiellement. La destruction des premiers temples, en 536. Les destructions des premiers temples à l'époque des prophètes Jérémie, des prophètes Isaïe et prophète Ézéchiel. Ézéchiel qui était aussi exilé en Babylonie. Le retour 70 ans après le retour avec Ezra, les prophètes Ezra, Néhémie, les retours du peuple d'Israël à la terre d'Israël, construction du deuxième temple, et c'est sûr que j'ai sauté encore quelques informations. Ça, c'est pour l'historique. On fait une pause ou quoi?
Volontiers. Je pense qu'effectivement, vous êtes arrivé jusqu'à la naissance du peuple
Oui.
juif d'Israël, en tout
Et
cas.
après, je vais parler un petit peu pratiquement. Alors, les fêtes juives, vous voulez connaître? Oui. Toutes les fêtes dans les calendriers juifs. Attends, après c'est vraiment la synagogue, le fonctionnement. D'où commençait la synagogue? Quand est-ce qu'on commence cette idée des synagogues? Célébration des fêtes, synagogue de la victoire, on va parler en visitant. D'accord? Lien avec les consistoires, les bédines, c'est très intéressant pour que vous allez connaître comment on fonctionne en France. Et les fonctions d'un rabbin consistorial, d'un grand rabbin. Et lien entre synagogue consistoriale et non consistoriale. Les étapes de la vie juive entre la naissance et la mort. Et la aliyah. Ça, c'est politique, là.
Vous nous direz?
Oui, dites-moi.
Et puisque vous étiez à la cacheroute aussi pour la WC, c'est très vite.
Ah oui, voilà. La cacheroute, c'est vrai que j'ai expliqué l'idée de la cacheroute. Après, la cacheroute, c'est des lois. Ça veut dire, nous ne mangeons pas les laits et la viande ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons des vaisselles des laits et des vaisselles du viande. Lorsqu'on a mangé du lait, on peut après manger la viande, après 10 minutes, en lavant la bouche. Mais lorsqu'on a mangé la viande, on ne peut pas manger les laits après, il faut attendre. Ça dépend des traditions, ou 3 heures, ou 6 heures. D'accord? Il y a ceux qui disent qu'après, c'est les questions. Il y a ceux qui disent que c'est question de digestion, les questions. Nous faisons ça comme ça, la même chose comme on fait les portées de la famille et que c'est extrêmement recommandé aujourd'hui. Et d'autres choses, ouais, comme la Brit Mila, la circoncision, on sait très bien, j'ai une femme pédiatre qui peut témoigner 100% à tel point c'est recommandé aujourd'hui la circoncision. Aux États-Unis, il y a beaucoup qui font. et même en France. Et on ne sait pas, on garde entre le lait et la viande, après les poulets, on garde, il y a ceux qui gardent 3 heures, et après la viande, on garde 6 heures. Les poissons, c'est ni lait ni viande. Ça veut dire qu'on peut manger avec les poissons pour manger de lait. On ne mange pas ensemble les poissons et la viande dans la même assiette. Ça veut dire qu'on ne mange pas des bœufs avec sauce poisson. D'accord? C'est écrit dans les codes de la loi juive que c'est dangereux pour l'estomac. On n'a pas encore trouvé, mais je suis sûr qu'un jour on va trouver. La même chose comme il est recommandé après les écrits juifs, les petits déjeuners, je pense qu'il y avait une. J'ai vu qu'en Angleterre, ou plusieurs pays, il y avait une recherche, quel est le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Voilà. Mais ça, c'est écrit depuis des milliers d'années. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Jusqu'à quand est-ce que la vie commence dans le utérus, jusqu'à. Il y a plein de choses. Hein? L'interdiction sur le porc, c'est. Alors, dans le judaïsme, nous mangeons les animaux qui ont des sabots fondus et qui sont ruminaux. Ruminaux, qu'ils ruminent. Les porcs, il a des sabots fondus. Il s'assoit en montrant les sabots, qu'il est caché. Mais il ne rumine pas. Par contre, il a les quatre stomas qui ont la potentialité de ruminer, mais il ne rumine pas. Et c'est intéressant parce que c'est écrit déjà qu'il a la potentialité, mais il ne rumine pas. C'est-à-dire qu'on peut se tromper. Et la Torah a mentionné tous les animaux qui ont une cine, mais pas la deuxième. Voilà, elle a mentionné sur les poissons, nous mangeons seulement les poissons qui ont des écailles et des nageoires. S'il n'y a pas, en tout cas, tous les poissons qui ont des écailles, il y a des nageoires. D'accord. Si on trouve un poisson qui a des écailles, on sait que les nageoires existent.
Pourquoi ce besoin de dualité là, à la fois les sabots fendus et la rumination, c'est relié à quoi?
Et
Ça envoie un symbole ça.
vous savez, on peut toujours trouver un symbole philosophique aux choses, mais ça me vient pas vraiment à l'esprit. C'est écrit tout simplement, sabot fendu, rumineux. Je sais pas, vous avez entendu une explication à ça?
Moi, je pense qu'il y a toujours ce principe de dualité, toujours qui existait dans la philosophie d'origine, ciel, terre, jour et nuit, complémentarité. Donc, s'il y a un élément, le deuxième élément confirme le premier. S'il y a un seul élément isolé, il est possible qu'il sera remis en cause. Quand il y a deuxième
Il y a, la vérité, il y a
information.
trois signes pour les animaux. Il n'y a pas deux. Pour les animaux, il y a trois signes. D'accord? On dit sabot fendu, mais c'est pour raccourcir les choses. Il y a la forme des sabots, et après c'est fendu et rumineux. Il y a trois signes.
Donc ces trois signes, on entre dans la
La
pluralité.
pluralité. Mais je pense qu'au fond, ce n'est pas. Au fond, dans la cacheroute, c'est vraiment une éthique. C'est une éthique des religions, de ce qu'on a dit, la conjuguer entre notre spiritualité et notre vie quotidienne et notre le profane. D'accord? Donner un aspect spirituel au profane. Voilà.
Le porc, dans les pays chauds, se conserve beaucoup moins bien que d'autres viandes. Il y a
Ça, non,
aussi.
ça, c'est pas la raison.
Non, c'est pas la raison
Non, j'ai
principale.
dit,
C'est une
c'est pas
conséquence.
médical.
Voilà.
C'est pas médical. Ça, il faut exclure. C'est pas diététique. Ce n'est pas
Oui,
médical.
non, parce que dans ce que vous dites, ce qui a été écrit, c'est d'une inspiration.
C'est la même chose comme je vous ai dit. J'ai rappelé, en fait, j'ai rappelé une recherche médicale dans cet concept de la vie conjugale, mais ce n'est pas la raison. la vérité, c'est de, c'est qu'il y a un sens de spiritualité dans la vie des deux corps humains et deux besoins quotidiens. Ça veut dire de ce que nous sommes. Et il y a une éthique de dans cet domaine de couple. C'est ça, c'est la spiritualité, c'est l'âme. Parce que nous, nous étions créés de quoi ? L'homme, il a façonné, Dieu a façonné l'homme à partir de la terre, ça veut dire c'est les corps. Il a insufflé une âme, ça veut dire une âme divine. Ça veut dire en nous, il y a l'aspect du corps, ce qui est la matérialité, l'animal que nous avons, avec une spiritualité. Nous cherchons, qu'est-ce que nous cherchons ? Nous cherchons l'humanité dans le monde. C'est quoi l'humanité ? On cherche Dieu dans le monde. Il y a, les athées disent, on cherche la moralité du code de la loi. Oui, c'est quoi la moralité ? Aujourd'hui, beaucoup, on parle sur l'éthique morale de la loi. La moralité, c'est Dieu dans le monde. C'est l'aspect humain en nous. Qu'est-ce qu'on cherche ? L'homme cherche l'humain qui est en lui. C'est ça qu'il a, c'est ça qu'il a, qui la Torah, le Talmud, ça aussi. Après, il faut comprendre, c'est quoi la Torah, c'est quoi la Mishnah, c'est quoi le Talmud. Ça veut dire la Torah orale. Nous avons la Torah orale et la Torah écrite. Il faut savoir que si vous lisez la Torah telle qu'elle est, elle raconte histoires sympathiques, un petit peu des lois incompréhensibles. Moshe, lorsqu'il était au Mont Sinaï, il a reçu la Torah écrite, la Torah orale. La Torah orale, c'est l'explication de ce qui est écrit. Le Talmud était écrit au 4e siècle. Normalement, c'est la Torah orale. Mais lorsqu'on a vu que ça sera peut-être oublié, le Chachamim, au premier temps, au 2e, 3e siècle, on a rédigé la Mishnah. La Mishnah, c'est un enseignement de loi écrit par Rabbi Yehuda Hanassi en mettant l'avis de beaucoup de rabbins sur la loi orale. La Gemara, son appel le Talmud, signé au 4e, 5e siècle, on va dire, 5e siècle, en Babylonie, la discussion de la loi. Et là-bas, on trouve le sens qui est la loi juive. Tout le domaine de la vie. Oui, entre la nutrition, la cacheroute, le calendrier juif. Le calendrier juif est discuté, mais la forme de la lune, toute la forme de la lune, les cardinaux où il apparaît, mais scientifique. Hein. Pythagoras est dans les calculs, dans le Talmud. Il y a un doctorat qui a été fait au Technion sur le Pythagoras, sinus, cosinus, tangens, tout ça. On trouve dans les Talmud, dans les traités Souka, dans la construction de la Kabbale, des calculs. C'est impressionnant. Oui.
Si vous permettez deux questions, troisième. Rapidement, par rapport à votre exposé, je vous remercie. J'ai découvert un miracle que je ne connaissais pas, moi. Donc Sarah a eu un enfant, Jacob, à 90 ans.
Et Isaac.
Isaac à 90 ans. Il n'y a pas d'explication, mais c'est, en même temps, c'est lié à ma question. C'est que par rapport au régime alimentaire, qui est assez contraignant dans la religion, parce que je perçois les relations que j'ai, là, comme j'ai posé les choses, il n'y a pas d'explication religieuse, c'est des conditions, mais il n'y a pas d'explication. Et l'idée, la question que je pose derrière, c'est qu'il n'y avait pas de volonté de comprendre, c'est une décision divine. C'est des ordres divins et on doit composer avec, même si c'est contraignant et que ça peut nuire aussi à la relation avec les autres religions dans le vivre ensemble. Est-ce que je suis clair ?
Non.
Les règles que vous avez dans la pratique de votre religion ?
Pas du tout.
Sont
tout
assez
est
contraignantes.
Avec.
Et parfois peuvent effectivement par rapport aux autres qui n'appliquent pas ces règles. Vous les recevez, vous les appliquez parce que
non, pas du tout. C'est justement qu'il y a toute une pensée. Ça veut dire que voilà, il y a un sens à toute chose.
Alors,
vous voyez, il y a une réflexion.
J'entends qu'il y a un sens, mais j'ai pas l'idée de remettre en cause ce sens. C'est de saisir ce sens d'importance crée aussi des tensions dans le vivre ensemble.
Pourquoi ? D'abord l'histoire de Sarah, on ne peut pas lier parce que l'histoire de Sarah au miracle on le voit jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'ai vu des femmes qui, toutes les médecins disaient à la femme qu'elle ne va pas avoir des enfants, mais c'était presque absolu. Elle a fait la fécondation in vitro 10 fois, elle n'arrive pas à avoir des enfants, on dit c'est condamné. Et après 2 ans, je ne sais pas comment, elle avait... Mais j'ai dit, on n'a pas vécu, je ne sais pas, on n'a pas vécu les preuves qu'il avait Isaac, les preuves qu'il avait Jacob, et les preuves qu'on est tous les trois religions monothéistes qui croient en ça. Ce n'était pas la question, mais les choses que nous mettons un doute et on veut comprendre. Bien sûr. C'est pour ça que j'essaie toujours de raisonner sur ce que j'enseigne.
Non, parce qu'il y a d'autres religions où c'est d'un ordre divin et le doute, leur mise en cause est interdite. C'est aussi une
autre. Ah oui.
C'est pas le cas.
Non, pas du tout.
D'accord. Et j'ai une dernière question avant de poser. C'est pourquoi le peuple élu ?
Qui ? Le peuple d'Israël ? Alors, les concepts des peuples élus ne pas dans la direction d'être élus comme les gens qui sont meilleurs, du tout. Qu'est-ce que ça veut dire élu ? Élu dans « je vous ai donné une responsabilité que je n'ai pas donnée aux autres peuples ». Ça veut dire qu'il y a déjà 70 nations et vous avez une responsabilité supérieure. Les responsabilités dans vos comportements, dans votre moralité, d'accord ? Par exemple, quand on parle des concepts de voler, d'accord ? Quand je dis voler, que veut dire pour vous voler ? Voler quelqu'un, c'est quoi ?
Prendre quelque chose qui ne m'appartient pas.
D'accord. Prenez un stylo de votre travail, est-ce que c'est voler ? Oui. D'accord ? Mais ça, c'est quelque chose que nos sociétés, en progressant dans la moralité, l'éthique de la loi, ont institué aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 1000 ans, je ne sais pas, qu'il n'y avait pas un stylo, je ne sais pas, prenez une flèche de munitions de roi à la maison était un vol. Pour nous aujourd'hui, parce que vous êtes réglé dans un autre standard de moralité de 21e siècle. D'accord ?
Pratiquement, quand quelque chose ne vous appartient pas sans demander autorisation, c'est considéré comme un vol.
D'accord. Par exemple, rentrer dans les magasins et prendre des renseignements sur un objet. Et parler avec le vendeur pendant 20 minutes et de ne pas acheter. Est-ce que c'est un vol ? Hein ?
Non, c'est un service.
Pour nous, pour le judaïsme, il ne faut pas se renseigner sur quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'acheter. Tout ça rentre dans les Talmuds, dans l'objet des vols. Par exemple, il y a quelqu'un que vous le savez, qu'il ira dans vendredi prochain, il est invité par quelqu'un d'autre. Et pour lui faire plaisir, tu l'invites aussi. Tu sais qu'il est invité ailleurs, tu l'invites aussi pour qu'il croie que tu veux vraiment l'inviter. D'accord ? Ça, c'est un vol. Ça veut dire tout ça est détaillé. Ça veut dire que c'est pas tu ne voleras pas ton prochain, c'est écrit. Mais tous les détails. Que veut dire un
pourquoi
vol ?
Ce peuple-là a été choisi pour être plus responsable que les autres. Je ne comprends pas le meilleur.
Non. Alors, ça veut dire élu dans le sens de la responsabilité.
Pourquoi ce peuple-là ?
Pourquoi ça, il faut demander Dieu. mais il n'est pas facile d'être juif, vous savez très bien, parce que je pense que ce peuple, il est observé pour la moindre des choses. Il est observé pour lorsqu'il y a des choses qui n'est pas dans la nature, Je ne veux pas rentrer en politique.
Mais pourquoi faut-il un peuple qui soit exemple ?
Hein ?
Ouais, j'ai dit ça. Exemple, repère.
Pourquoi faut-il un exemple ? Parce qu'on a besoin d'exemple. Je ne sais pas, je peux le question comme ça.
Quoi ?
Pourquoi faut-il un peuple qui soit un exemple ? L'évangile qui n'a pas besoin d'exemple ?
Pourquoi ? Parce que le monde, peut-être a besoin d'une référence. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la nature qui a été créée comme ça. Et pour moi, je prends ça dans le sens d'une responsabilité, et d'une lumière. Quoi qu'il soit, c'est une des raisons qui n'était jamais facile d'être juif. Parce qu'on désigne avec les doigts, lorsque les choses n'y va pas... Vous les juifs, qu'est-ce que vous faites? C'est une réalité historique. Oui.
J'ai beaucoup de questions, mais est-ce qu'on peut faire du temps?
Alors, il y avait différentes. Alors, on va peut-être aussi un petit peu bouger pour voir un peu les.
Oui, d'accord, d'accord.
Il y a les fêtes. Nous, quand on a organisé le calendrier pour l'IHFMR, on a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Shukot, Hanouka, Peshar et Shavuot. Enfin, est-ce que c'est. Est-ce qu'on a bien tout identifié? Quelles sont leurs significations?
Non, on n'a pas tout identifié. Allez.
Excusez-moi, avant juste de changer de sujet, parce que j'avais juste une question en lien avec juste pour ce qu'on vient de dire. Ouais. Cette notion de peuple élu, excusez-moi, je ne veux pas...
Oui, dites-moi, ici on...
Voilà.
Pas à la française, à l'anglaise, à l'américaine.
Voilà. Est-ce que c'est une autoproclamation du peuple juif ou est-ce que les autres religions vous reconnaissent?
Il n'y a pas une autoproclamation de juif. On n'a même pas conscience de ça. Souvent, quand on entend ça, si on entend ça de l'autre, pourquoi il est écrit que. Mais nous avons dans notre éducation le sens de garder notre particularité dans la vie juive, autant que juif. On sait qu'ils nous sommes isolés, pas parce qu'on veut être isolé, mais il y a cette psychologie d'être un peuple qui est un petit peu seul. Je dis, c'est comme ça qu'un enfant juif, et si quelqu'un veut te raconter autre chose, c'est pour essayer d'embellir les choses. Mais il y a cette psychologie d'un peuple qui est un petit peu à part, une psychologie d'être un exemple aux autres. C'est pour laquelle je pense, et c'est la réalité, lorsqu'il y a un juif qui commet une erreur, ça frustre, je sais pas, ça donne ça, on nous dit mais comment pourquoi les juifs font ça, d'accord, il y a on attend de quelque chose, d'un message qui c'est ça qu'on appelle la responsabilité.
Et est-ce que les autres religions ont reconnu ce statut de peuple élu? Est-ce que par exemple dans la religion catholique il y a quelqu'un qui a dit le peuple juif et le peuple élu? Est-ce que dans la religion musulmane il y a quelqu'un qui a dit le peuple juif et le peuple élu?
On n'attend pas que les autres. Ça veut dire on n'est pas, on proclame pas que nous sommes peuple élu. On n'a pas, on n'attend pas de dire on est. Il n'y a pas cette concept, ça veut dire on ne pense pas à ça. On pense quelle est notre responsabilité. On ne pense pas à ça. Mais après, je sais que les papes, il a dit il n'y a pas longtemps que vous êtes un peuple.
On parle de la nouvelle alliance. Enfin, il y a le terme d'alliance aussi, de Dieu avec un peuple. Et pour un catholique.
Ancien et nouvelle alliance.
Oui, voilà. Enfin, c'est ces notions.
Nouvel Testament, c'est nouvelle alliance. Ça s'appelle la Brit Hadasha en hébreu, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, les concepts à l'époque qui a engendré des massacres des juifs inconsidérables. Oui, je pense qu'il ne faut pas enseigner l'histoire, combien des juifs étaient massacrés sur la croix. Brûlés vivants, enterrés. Tout ce que vous pouvez imaginer, hein. il faut lire l'histoire, ça a été comme ça.
La notion d'alliance d'un peuple avec Dieu.
C'est quoi la nouvelle alliance? Ça veut dire le peuple a quitté cette première alliance avec ce peuple, il y a une nouvelle élection. C'est la même chose comme après l'année, après plus tard, et il y a un nouveau prophète. Voilà, il y a une autre alliance. Il y a cette différence. Et guerre des religions qui a été créée. Oui, il y avait la croisade, il ne faut pas oublier, des milliers de juifs qui étaient tués, assassinés, égorgés à l'époque de la croisade. Et la même chose après, plus tard, à la montée de l'islam. Aujourd'hui, on vit dans une période normalement... pour moi, aujourd'hui, dans la religion chrétienne, on dirait qu'il y avait un changement de concept de comment voir les juifs aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette concept qu'il faut éliminer cette peuple. Il n'y a plus cette concept. Il y a, je pense, le respect aussi. Il y a le respect de l'islam. Seulement aujourd'hui, on est dans cette quand même, il y a une certaine difficulté des couronnes de l'islam que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe en Irak.
Excellente introduction aux conférences qu'on va avoir après, puisque effectivement, la religion catholique va nous expliquer un peu sa perception des choses, que l'islam et la religion réformée, etc.
Là, on va parler des fêtes, vite.
Voilà, et peut-être... Oui,
Il y avait beaucoup de questions.
Ce que je vous propose peut-être pour les questions... On va peut-être une ou deux questions, mais après on les gardera peut-être pour la fin, de façon à ce que ceux qui doivent vraiment partir à 17h puissent être libérés, et qu'après je sais que vous êtes debout depuis très tôt ce matin.
Oui, ça va.
Mais si vous tenez encore, qu'on puisse un
peu changer. Il faut que je rentre à la maison plein de fond pour mes enfants aussi, hein.
Voilà, oui. Et ne serait-ce que savoir un peu comment se vit un dimanche. Mais ça, j'anticipe.
Ça, c'est tout à l'heure.
Voilà.
Alors, une question pour Assem et puis pour Pierre. Pierre et Assem, chacun.
Faddel.
Alors, moi, ma question est assez simple. Quand on voit, il y a une espèce de. Le peuple élu, ça remonte au prophète Jérémie.
Non, les peuples élus, ça remonte de Don de la Tour.
Sorti d'Égypte.
Mais il n'y a pas de. Ça veut dire qu'on n'a pas cette concept. On sait qu'il y a une responsabilité, oui. Alors ?
Non, mais qu'on en fasse une interprétation. C'est ce peuple élu de cette époque-là, le peuple juif d'aujourd'hui s'identifie intégralement à lui. Est-ce que c'est pas un petit peu excessif ? Est-ce qu'on pourrait pas penser que ce peuple élu, ben finalement, aujourd'hui, pourrait se retrouver ailleurs ?
Mais vous voyez la transmission qui est identique. La transmission n'a pas changé. Les savoirs n'ont pas changé.
Ça, c'est l'homme qui l'a dessiné.
Ma destinée, ça transmet des pères en fils jusqu'à aujourd'hui. Si c'est les Talmud, si c'est la Torah, si c'est cette information. On est allé jusqu'à de voir s'il y a un poids commun entre les Kohanim. Kohanim, c'est les descendants de Aaron. Ça veut dire si Aaron est le premier... de cette lignée, il y avait aujourd'hui avec la génétique, ils ont fait un jeu comme ça, de voir si le gène vient de même, je sais pas tous les mots techniques, ils ont trouvé que le Kohanim vient de même père, arrière-père.
On sait aussi qu'il y a des gens qui contestent ça, avec aussi des moyens scientifiques qui essaient de développer.
Non mais j'ai dit comme ça,
ça serait pas une approche, une façon aussi de détendre l'atmosphère aujourd'hui.
Pas de temps. Vous voyez les fouilles archéologiques jusqu'à aujourd'hui qui sont datées de bien avant Jésus-Christ, quand on trouve des parchemins identiques avec l'histoire biblique, on trouve, il y a des choses qui sont transmises des familles en génération avec tellement des preuves archéologiques, on ne peut pas refuter ça. C'est comme dire ce que je vois devant moi n'existait pas. C'est pas... Quel est le lien avec ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la culpabilité? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vraiment? Et quel est le lien avec le peuple d'Israël?
Si vous me posez la question.
Oui.
J'en sais rien. Enfin, c'est une question énorme. Enfin,
quels sont les points qui passent aujourd'hui que voilà, quand on je vous ai dit qu'il y a une certitude d'appartenance de peuple d'Israël. par le nom de famille, par les, par des milliers de preuves. Qu'est-ce que ça crée? Quel problème ça peut créer aujourd'hui?
Il y a une espèce d'appropriation.
Non, mais est-ce que vous pensez que moi je pense d'appartenir à une origine divine?
Non,
je suis un homme comme tout homme avec des droits et des obligations comme tout le monde. Seulement, je vis ma tradition religieuse.
Oui, mais du coup, elle est vécue
avec toute la doctrine.
Vu de l'extérieur, on voit qu'il ne suis pas juif.
On est tous fiers d'être ce que nous sommes, je pense. Les chrétiens sont fiers d'être chrétiens, les juifs sont fiers d'être juifs, et les musulmans sont fiers d'être musulmans.
Oui,
d'être fiers de ce, de la... de... La singularité de l'un et la complémentarité de l'autre. Votre singularité m'apprend beaucoup de choses. C'est, notre différence ne fait pas une l'indifférence. C'est le contraire. On est complices. Vous savez pourquoi il y a 12 tribus en peuple d'Israël? Pourquoi il n'y a pas un seul tribu? Pourquoi il y a 12 tribus? Non, mais pourquoi garder les notions? Pourquoi garder les notions des 12 tribus si différentes? Vous savez que chaque tribu, il avait son drapeau, son signe, son... Quand il marchait dans les déserts.
Lévi a une mission.
Non, mais pourquoi? Hein?
C'est en lien?
Est-ce que je peux me poser mes questions?
Je vais vous donner tout de suite en répondant à ma question.
Ouais.
C'est parce que l'unité ne fait pas par l'identique pensée. C'est par notre différence qui fait. Notre différence, l'Union européenne, la particularité de l'Union européenne, que chaque État et chaque pays va garder sa particularité. En décommunitarisme, oui, c'est une communauté. Elle garde sa fonctionnalité, pas en dérangeant l'autre, en donnant à l'autre. Et l'autre, donner, c'est notre différence qui fait les richesses. C'est pas notre on n'est pas ici pour penser de la même façon, manger de la même façon, gagner de le même salaire. C'est pas.
Oui. Dernière question.
Dernière, moi j'ai beaucoup de questions.
Voilà, mais pour appeler.
Écoutez,
la plus difficile. Hassan.
Heureusement qu'on aura l'occasion de discuter ensemble. Ouais. Mais à votre question, vous avez posé une question, madame, concernant le peuple élu. Est-ce que dans les autres religions, on a parlé des peuples élus? Vous avez cité le christianisme. Et l'islam, c'est ça? La réponse est oui. En islam, je parle de l'islam.
Oui.
En islam, on a parlé de peuple d'Israël comme un peuple élu.
Ah,
soit
oui.
Dans le Coran et dans le surat, la vache cosmique, Al-Baqarah. Et Bani Omran. Aussi. C'est-à-dire, là, dans le Coran, on parle de peuple élu, mais dans le sens que vous avez dit, et dans le sens de l'exégèse de l'islam, c'est-à-dire, c'est un peuple choisi, Sha'b Allah al-Mukhtar. Sha'b, c'est-à-dire le peuple Allah, Dieu al-Mukhtar, choisi pour porter une responsabilité. Dans le sens d'un peuple qui porte une responsabilité, égal, mortar, c'est-à-dire elle est choisie.
Mm-hmm.
Ce n'est pas dans le sens choisi, un peuple élu, dans le sens de supériorité ou de suprématie ou autre chose. Donc finalement, c'est plutôt une charge, une responsabilité. Pourquoi cette élection? Et en islam, dans l'exigence de l'islam, c'est-à-dire l'interprétation des textes par les jurisconsultes, et aussi dans les études de l'archéologie. Vous avez cité l'archéologie, ça m'a fait plaisir, parce que l'archéologie, il vient pour confirmer les textes et confirmer aussi les citations orales. Mmh. Alors, donc, c'est une confirmation. Là, nous avons la réponse, c'est que devant un peuple organisé et plutôt conditionné par un système assez, très fort et très solide et solidement établi, le système de Pharaon d'Égypte, alors le peuple d'Israël, ou le peuple des Hébreux, le peuple autour de Moïse et Aaron, elle était choisie pour porter une responsabilité de tenir tête, entre parenthèses, au Pharaon, jugé comme un tyran, et partir d'Égypte en allant vers la terre promise. Et la terre promise, c'est-à-dire la terre de pays de Canaan, devenue par la suite la terre d'Israël et tout, et c'est une responsabilité, c'est un défi, plutôt un défi. Et quand on choisit un peuple pour défier l'injustice, jugée par Dieu comme une injustice, c'est-à-dire une négation de la vérité, donc c'est un peuple élu. Voilà.
Alors, je vais aller maintenant vers les fêtes d'Israël, le calendrier des fêtes. Alors, on a parlé de Pessah, oui, Pâques, juif, c'est la sortie d'Égypte. Les Pentecôtes, Shavuot, 5 semaines après, on appelle Shavuot, c'est les dons de la Torah. À la destruction du premier temple, il nous a entré un autre événement, celle des 17 Tammuz. Tammuz, c'est un mois. C'est un mois hébraïque qui, à mois et quelques après le Pentecôte juif, c'est le début de la brèche dans le mur de Jérusalem par Nebuchadnezzar. On appelle ça les jeûnes. C'est un jeûne des 17 Tammuz en rappelant la destruction du premier temple et du deuxième temple. 3 semaines après 17 Tammuz, il y a une date qu'on appelle Nef Av, qui symbolise la destruction des premiers temples et des deuxièmes temples. Après, on a les mois d'Elul. Les mois d'Elul, les mois d'Elul dans les calendriers juifs, c'est le symbole de la préparation, des préparations de jours de grand jugement, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, les Nouvel An. En priant, nous avons des prières supplémentaires et des réflexions sur soi pour les repentir, ça veut dire pour penser au droit chemin. Repentir, ça veut dire retourner vers ce qu'on est censé être. Et lorsque l'homme il est dehors de ses comportements d'homme, là, il s'est égaré du sens humain dans lequel il est né dans ce monde. Oui. Lorsque vous, je ne sais pas si ça vous arrive de visiter des détenus dans les prisons, ils sont tous innocents. D'accord ? Et lorsque vous parlez avec eux, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font dans les prisons. Ils sont complètement innocents. Et celui qui était aumônier des prisons, je pense peut-être que vous êtes un aumônier des prisons par hasard ? Non. Non, c'est lui qui était, j'ai fait, d'aéroport, d'accord. D'accord, c'est lui qui était aumônier dans les prisons, j'étais aumônier au sud de la France. Lorsque j'ai parlé avec les détenus, et qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble dans l'enseignement moral de la vie, ils m'ont tous expliqué qu'ils sont innocents, c'est des gens droits, et que la justice a fait une erreur avec eux. Comment on fait avec ça? Je lui ai dit, je vous crois, vous êtes des gens droits, mais sincèrement, parce que l'homme est né pour être droit. Je lui dis, vous avez un moment de faiblesse où vous sortez de ce que vous êtes. Ça veut dire ce qui s'est passé, c'est vrai, ce n'est pas vous. Ce n'est pas ce que vous êtes censé être. Mais pour cela, il faut réparer ce moment. Et il faut apprendre d'être un homme droit. Et c'est comme ça, ça veut dire, je vous dis cet exemple pour dire, c'est le mois des louls, c'est le mois voilà, de la réflexion, où nous croyons que le chemin, c'est le mois qui est le plus... Toute l'année, on fait cette réflexion de soi sur notre moralité et comportement, mais le mois des louls, c'est encore plus. Rosh Hashanah et Nouvel An juif, c'est le jour du grand jugement, où Dieu juge toutes les nations, pas seulement les peuples d'Israël, et la prière de Nouvel An juif, vous pouvez trouver aussi la prière pour toutes les nations. Nous prions que Dieu va donner la paix à toutes les nations, qu'on va avoir l'abondance et la pluie pour toutes les nations, que tout ça écrit dans la prière de Rosh Hashanah. Il y a un symbole particulier qu'on appelle le shofar. D'accord, le corne des béliers que nous sonnons le jour de Rosh Hashanah. Première signification, réveillez-vous de votre sommeil. D'accord, parce que c'est le moment de la Teshuvah. Deuxième explication, c'est rappelez-vous, éternel Dieu, jusqu'à où Abraham, notre patriarche, était d'accord d'y aller. Des ligotés, des sacrifiés son fils, mais à la fin, ce n'est pas le fils, il y avait un bélier, et cette corne des béliers nous sonnant pour éveiller la miséricordieuse de voir combien notre père commun, Abraham, a été fidèle pour vous. Réveillez-vous, rappelez-vous de l'alliance que vous avez faite avec Abraham. Et la troisième que je pense qui me pour moi, elle est quelque chose qui tient aussi, tient dans mon cœur. Après, chacun, c'est différent. Je pense les souffles que nous soufflons dans les chauffards, d'accord, cette corne, cette voix, cette souffle, c'est les souffles divins. Parce que les souffles que nous avons, c'est quoi? Les souffles, Dieu nous a insufflé une âme. Et notre souffle, c'est les souffles que nous allons souffler dans cette corne, en réveillant notre esprit. Ça veut dire c'est une voix, c'est la voix de notre âme qui s'exprime à ce moment-là. Et il y a nous mangeons aussi la pomme avec le miel pour l'année douce. Il y a d'autres exemples. Après la fête des Sukkot, le jour des grands pardons, où Dieu scelle sa décision pour l'individu, pour les nations, pour le monde, le jour des Kippour, le jour des grands pardons. Pourquoi le jour des grands pardons? Parce que ce jour-là, Dieu a pardonné les peuples d'Israël la faute des veaux d'or. D'accord? La faute des veaux d'or, c'est le moment que Moïse monte au mont Sinaï pour descendre avec la Torah, pas seulement avec les deux tables de la loi, c'est le signe. Il est descendu avec deux tables de la loi. La première fois, les peuples ont pensé que Moïse ne va pas descendre parce qu'il était censé rester 40 jours et 40 nuits. Il restait 40 jours et 40 nuits, mais les calculs des peuples n'ont pas été exacts. Et ils ont décidé de faire l'intermédiaire, quelque chose entre eux et l'Éternel. La preuve, plus tard, il y avait quelque chose, une image, un statut qui était là, sur l'arche de l'Alliance, il y avait les chérubins, du visage d'un enfant et d'une fille, face à face, avec les ailes, c'était sur les couvercles de l'Arche de l'Alliance, et à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait le doctat de la loi. La différence, c'est que là, Dieu a dit, vous allez faire les chérubins, et comment faire les chérubins? Parce que si on fait ce comme on veut, ça devient une idolâtrie. Ça veut dire que le veau d'or était une idolâtrie parce qu'on a fait comme on voulait, pas comme Dieu y veut. D'accord ? La pratique religieuse, c'est pas faire, on dit Dieu est grand, au nom de Dieu on fait. Non, on demande comment Dieu il aimerait qu'on fasse. Ça veut dire dans ce monde. Et lorsqu'on dit comment on aimerait que Dieu y fasse, si vous lisez la Torah, il y a que des commandements qui, dans laquelle, les commandements, ce qui est écrit, les lois qui est écrites, c'est des lois, les lois de vie pour vivre ensemble. Il n'y a pas une loi qui est contraignante de vivre ensemble. Il y a des lois des employés, des employeurs, des enfants et des parents, tout est écrit. Quand je dis la Torah, je dis le Talmud, parce que dans le Talmud, c'est ça qui ouvre ce qui est écrit dans la Torah. Alors, on a dit les jours de grand pardon. Pourquoi grand pardon? Parce que c'est là où Dieu a pardonné la faute des vaudeurs. Les jours des Kippour. Après, il y a Sukkot, la fête de la cabane. Je termine. Ah, vous devez aller.
On termine les fêtes et après
on termine les fêtes, on visite. D'accord? Alors, et il y a la fête de la cabane. Le moment que nous sommes sortis d'Égypte, on était résidé dans la cabane. Après, il y a la fête de Shmini Atzeret, les huitièmes jours de fête de la cabane, où nous rappelons les débuts d'hiver. D'accord? La fête de Hanouka, qui sera fêté bientôt, le 17 décembre, mais ça tombe à peu près la même, toujours la même chose, c'est au mois de décembre. Fête de Hanouka, au souvenir de l'histoire de l'époque grecque à la terre d'Israël. Les Grecs, l'Antiochus IV, a obligé les Juifs de pratiquer l'hellénisme, ça veut dire la philosophie grecque autant que religieuse, et pas seulement autant qu'une pensée. Celle-ci a créé une révolte à la terre d'Israël et la libération de nouveau du temple d'Israël en pratiquant la philosophie, la pensée juive à la terre d'Israël. La Hanoukia, la menorah, il y avait la profanation du temple. Le moment que le juif rentrait de nouveau dans les temples, ils ont recommencé le service dans les temples en allumant la menorah. Et un miracle qu'il y avait, de l'huile qui était suffit pour un jour, la menorah était allumée pendant 8 jours. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette fête de Hanouka. C'est la victoire de la pensée juive par rapport à la pensée grecque, bien qu'il y ait une réciprocité entre les deux. Il y a plus tard, alors on a dit Hanouka, Purim dans l'histoire vient bien avant Purim. Il y a Tu Bishvat, le 15 Shvat, les nouvel an d'arbres. Des arbres, d'accord. Il y a le nouvel an des arbres. Des arbres fruitiers, d'accord. Pas des arbres comme ça, les arbres qui donnent des fruits. Et le nouvel an des arbres, et oui, d'olives, tout ça. Et le nouvel an des arbres, c'est pour mentionner l'âge de l'arbre. Parce qu'à la terre d'Israël, pendant 3 premières années, nous avons l'interdiction de manger les fruits de l'arbre. Et c'est à partir des 4e année que nous mangeons les fruits. C'est la référence de l'âge de l'arbre. Le Purim passe à l'époque de l'Empire perse, juste après l'Empire de Babylonie. À l'époque du retour du peuple d'Israël à la terre d'Israël pour la construction du deuxième temple, un décret du roi, d'un adjoint du roi perse, d'exterminer toutes les juifs dans toutes les provinces du roi perse. Les changements de décret, un miracle, comme quoi à la fin les juifs n'étaient pas exécutés, a donné la célébration de la célébration de fête des pourris, car nous étions sauvés. Et après, évidemment, après, dans l'histoire, il y a la construction de deuxième temple. Voilà les calendriers juifs. Okay. On va aller dans la.
Pour répondre aux autres questions dans le.
Oui, dans la synagogue.
Merci déjà pour.
Bon, on va interrompre ici le. Par contre, peut-être que tu peux essayer d'enregistrer en.